Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et cet après-midi, Franck Ferrand nous parle d'un lieu qu'il commence à bien connaître. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je hante les Folies Bergères pour préparer donc ce spectacle de ce soir. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est complet pour cette fois, mais j'espère bien vous y voir la fois prochaine, car il y aura d'autres soirées, du moins si tout se passe bien ce soir.
Mais oui.
Ben oui, c'est pas rien quand même de parler devant 1700 personnes qui sont venues exprès, surtout sur une scène où se sont produits tant de mythes, tant de légendes. Je sais pas, on va le prendre au hasard, la belle Otero, Cléo de Mérode, même Charlie Chaplin a joué ici en duo avec Stan Laurel. Ils étaient dans la même troupe à l'époque. Et puis Loïc Fuller, bien entendu, je vais vous en dire un mot dans un instant, et Joséphine Baker, dont les revues aux Folies ont littéralement enflammé Paris. Sur ces planches, nous en parlerons tout à l'heure, Maurice Chevalier a embrassé pour la première fois Miss Tinguette. Dans cette salle, Rému puis Fernandel ont fait leur début à Paris. Plus de 50 revues ont été présentées au fil des décennies dans ce qui s'est imposé comme le premier music hall de France. Alors, qui dit music hall dans cette émission, vous le savez, dit Jacques Pessis. Je suis très heureux qu'il ait pu se rendre disponible pour venir nous raconter les mille et une petites histoires qui ont émaillé la saga des Folies Bergères.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Isabelle sur l'origine des trois coups au théâtre.
Allons-y. En tout cas, si jamais j'avais envie de me changer les idées ou de penser à autre chose, on peut dire que c'est réussi.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ici est né le music hall, dans ce qui avait été sous le nom de Colonne d'Hercule, le magasin d'un marchand de lits. Un marchand de lits qui était spécialisé dans les sommiers élastiques. Sommiers, matelas, édredons à tous les étages. Peut-être un signe, me direz-vous. Un certain Louis Montrouge s'est laissé fasciner par l'afflux à Paris de foules avides de plaisir. Des foules qui étaient attirées par l'exposition universelle de 1867. On a oublié aujourd'hui les événements absolument considérables qu'ont pu être ces grandes expositions universelles de 1855, de 1867, de 1889 et bien sûr de 1900. Ça transformait la société, ça drainait des peuples entiers vers cette capitale qui n'était pas encore en 1867 tout à fait la capitale lumière, mais qui n'en était pas très loin. Alors donc, notre Montrouge la transforme une grande partie du magasin de Sommier en théâtre, sur le plan d'un théâtre lyrique, et c'est ainsi donc que voit le jour de façon définitive, parce que ça a été un petit peu long à se mettre en place, en 1869, les Folies Trévise, c'est leur nom à l'époque. 1869, c'est certes la fin de ce qu'on a appelé la fête impériale. On s'amuse beaucoup, on chante, on danse à Paris. Enfin, en même temps, le moment n'est pas bien choisi, puisqu'un an plus tard, c'est la guerre contre la Prusse. Ça va être l'effondrement, justement, de ce Second Empire. Et c'est surtout le siège de Paris. Vous imaginez comme c'est le bon moment pour ouvrir une salle de spectacle au moment où la ville est assiégée. Et encore, je ne parle même pas de la Commune. Les Folies Trévise ne vont retrouver leurs artistes et leur public que pour les fêtes de fin d'année 1871, avec tout de même un grand orchestre sous la baguette d'Olivier Métra, s'il vous plaît, le roi des polkas et des mazurkas. On pourrait presque dire qu'il est un peu le Johann Strauss parisien, d'une certaine manière. Et l'année suivante, le théâtre devient donc Folies Bergères, 13 lettres. C'est important ces 13 lettres parce que c'est censé porter chance à la salle. Et vous savez que toutes les revues par la suite, je vous ai dit, il y en a eu plus d'une cinquantaine, toutes les revues portent un titre qui se décline en 13 lettres. Il faut systématiquement qu'il y ait le mot folie et que ça fasse 13 lettres. Vous voyez, bon, ces revues, elles enflammeront Paris, bien entendu. Elles feront sourire la France, elles feront rêver le monde entier. On ne peut pas encore tout à fait parler de music hall en tant que genre à part entière à ce moment-là. Pour le moment, le spectacle tiendrait plutôt du cirque frontal, si je puis dire, matinée d'attractions foraines, ce qu'on appelle variété en Allemagne, avec des nains qui font des choses intonantes, des sœurs siamoises, un avaleur de serpents, enfin, vous voyez un peu le genre. Et ce qui, très tôt, disons-le, va faire la fortune et la sulfureuse célébrité des Folies Bergères, c'est le fameux jardin jardins, c'est-à-dire ce grand vestibule aménagé dans une sorte de jardin d'hiver étrangement fréquenté, si vous voyez ce que je veux dire, ainsi que le promenoir, cette espèce de galerie très large qui fait le tour du parterre et où l'on croise à l'époque facilement de jolies dames pas trop difficiles. Un théâtre où l'on peut circuler, où l'on peut parler, fumer, rire, tout en gardant un œil sur une scène distrayante mais sans aucune obligation. Vous avouerez que c'était épatant, comme on aurait dit à l'époque. Une certaine pénombre, bien entendu, une certaine bousculade propice à certains rapprochements, et puis partout des miroirs pour désorienter le badaud, pour faire tourner les têtes. Le promenoir des folies devient l'endroit où les gens du monde eux-mêmes viendront bientôt s'acoquiner au demi-monde, pour ne pas dire parfois à la canaille. D'année en année, de revue en revue, les folies gagnent en splendeur, de l'or, du velours rouge, des plantes, des fontaines et même des fauteuils indépendants sur plusieurs rangées, le long de l'avant-scène. Le lieu est mûr pour accueillir un nouveau genre de spectacle, un genre qui aurait sa cohérence et les germes de sa propre noblesse. Après un passage à vide où la grande salle, il y a toujours cette vocation lyrique aux Folies Bergères, ça va devenir une vraie salle de concert, figurez-vous, de concert classique, mais c'est pas très long. Les Folies sont bientôt rachetées par des cabaretiers de haut vol, les Allemands. Quand je dis les Allemands, c'est le nom de monsieur et madame Allemand, ça n'est pas leur nationalité, bien entendu. Ils étaient propriétaires notamment de l'Eldorado. Ils vont confier bientôt les revues à leur neveu par alliance, Édouard Marchand. Et cette fois, c'est la révolution que nous attendions. À l'automne 1886, les affiches portent ce titre volontairement provocateur, place aux jeunes, du grand spectacle novateur, de qualité, autour de vedettes populaires, de numéros de grande classe et de femmes nues, bien entendu. 15 années durant, tant que la santé suivra, Monsieur Marchand va inventer, peaufiner, pousser à sa plénitude un type de spectacle appelé à se répandre assez vite dans toute l'Europe, que dis-je, dans le monde entier, le musical. Je vous l'ai dit, le musical est né ici.
Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes.
Charles Trenet, moi j'aime le musical, et vous nous parlez justement de musical qui est né aux Folies Bergères, la salle légendaire dont vous nous racontez l'histoire cet après-midi, Franck
Jacques
Ferrand.
Jacques Pessis était en train de me dire, pendant que Charles Trenet nous enchantait, il était en train de me dire que le mot même de musical n'est pas né aux Folies Bergères mais à l'Olympia. On verra dans quelles circonstances tout à l'heure je lui poserai la question. Ce sera même ma première question. Tiens, alors, le 30 novembre 86, c'est une date historique pour les Folies, puisque c'est la création de la première vraie revue à grand spectacle de l'établissement. Une revue qui a quand même coûté, qui donc s'appelle Place aux Jeunes, on verra pourquoi aussi tout à l'heure. Elle a coûté 10 000 francs cette revue, alors 10 000 francs or de l'époque évidemment, c'est pas mal d'argent. En même temps, ça n'est rien à côté de ce qu'on connaîtra plus tard dans les années 1910 et surtout 1920, où les prix des revues aux Folies Bergères atteindront des sommets incroyables. Mais c'est déjà pas mal d'argent et Madame Allemand, dit-on, en est carrément tombée malade physiquement. C'était pas tout à fait dans sa philosophie de claquer comme ça l'argent par les fenêtres. Alors, fallait voir un peu ce que Édouard Marchand était capable d'aller dénicher. Il avait sur son programme des Folies Bergères, les frères Isola, qui étaient les grands illusionnistes de l'époque, une charmeuse de serpent qui s'appelait Naya de Magenti. Il avait la troupe Zoulou, c'était des vrais Zoulous. Tout ça paraissait incroyablement exotique. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des mots qu'il faut retenir quand on parle des Folies Bergères. C'était le grand lieu de l'exotisme. On pouvait venir voir la famille Birman, qui était un des grands numéros de l'époque, ou le kangourou boxeur, figurez-vous. Ou les lutteurs de Stamboul, disait-on. Vous savez, ces espèces de lutteurs qui s'enduisent de graisse, là. Bon. Et alors, il y avait des phénomènes aussi, hein. Un personnage gigantesque, s'appelait Ton Cannon, qui mesurait plus de 2,10 m. Donc c'était une espèce de grand bonhomme assez étrange. Et puis des acrobates incroyables, des jongleurs. Il y avait les tableaux vivants du Palace Théâtre de Londres. Il y avait un nain transformiste, un anglais qui s'appelait Little Teach. Et puis des clowns, bien entendu, beaucoup de grands clowns. Alors, celle qui évidemment attirait le plus grand monde aux Folies Bergères à l'époque, c'était les Sisters Barrison. On les appelait ainsi. Là, on est un petit peu plus tard, on est en 1890. Qu'est-ce qu'on aime le plus en elles? Est-ce que c'est leur chevelure blond platine, on devrait dire d'or pâle, n'est-ce pas? Ou leur taille si souple, ou leurs très belles dents, ou leur sourire magnifique, leur voix un peu étrange, leur déhanchement de bébés automatiques, comme on disait. Tout ça, c'est étrange. Ce charme-là, écrivait Brisson, on ne l'explique pas, on le subit. Et c'est encore Marchand quand même. Hein. Donc je pense qu'on peut dire que le succès de ce genre de grande salle, c'est d'abord le succès de programmateurs qui savent aller dénicher les numéros qu'on n'a jamais vus ailleurs et qui sont extraordinaires. Et alors, évidemment, il sait aussi faire sa publicité, Monsieur Marchand. C'est lui qui va faire venir sur la scène des Folies. Caroline Otero, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission que nous consacrions avec Jean Descartes à la belle Otero. Liane de Pougy, Émilienne d'Alençon, on les appelait les trois grâces. C'était les trois grâces de la belle époque. C'était surtout les grandes horizontales, ces espèces de cocottes, reines du demi-monde, qui, par leur simple nom et par la grâce d'une sorte d'extravagance assumée, étaient capables de remplir littéralement les salles. Et puis, des numéros plus étonnants, peut-être un peu plus ambitieux. Je pense, bien entendu, en 1892, à celle qui va être la grande révélation de l'année, et c'est encore une fois sur la scène des Folies Bergères, c'est Loïc Fuller, bien entendu. Alors vous savez, je ne sais pas si vous voyez qui est Loïc Fuller. On voit beaucoup de... Moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est objet d'art Belle Époque, et on appelle ça Art Nouveau, je vois beaucoup passer de statuettes, qu'elles soient en marbre, en bronze, en plâtre, peu importe, mais qui représentent Loïc Fuller avec ses grands voiles. C'était une danseuse qui était comme une espèce de grande chauve-souris, comme ça si je puis dire, mais très gracieuse, très belle. Elle s'enveloppait dans des voiles gigantesques qui étaient tenues en partie par des espèces de grandes baguettes qui disparaissait elle-même sous les voiles. Et puis il y avait une soufflerie qui permettait évidemment à Loïc Fuller d'être comme une sorte de flamme vivante, un incendie au cœur d'un grand volubiliste, disait Robert de Montesquieu. C'est vrai que Jean Lorrain était moins gentil, il disait une chauve-souris humaine enveloppée dans un suaire. Ça c'est... C'est nettement moins sympathique, bien entendu. Alors, il y avait des chanteurs et des chanteuses, bien entendu, Paulus, Paulin, Yvette Guibert, et qui est venue, bien sûr, ici aux Folies Bergères. Bref, ce qu'on appelait une revue à l'époque, c'était cette espèce de grand mélange, c'était cette espèce d'accord très savant de surprise, d'envoûtement, de galanterie aussi, sans doute, et de séduction, bien entendu. Il n'y avait pas de maîtresse de ballet qui fût comparable à celle que Louis de Luc devait appeler le Fokine français. Elle connaissait les danses de toutes les époques et de tous les pays. Où les avait-elle apprises? Elle ne le savait pas. Qui était-elle? Elle l'ignorait. Trouvée sur une route des environs d'Aumale en Algérie, au bord d'une fontaine comme Mélisande, elle avait été recueillie par une femme qui passait. Eh bien, cette femme extraordinaire. Évidemment, c'était Marie Kita, qui elle aussi a fait les beaux jours du, j'allais dire du cabaret. Disons bien du music hall, parce qu'on est dans un music hall. C'est Cléo de Mérode hein, qui faisait la belle description que je viens de vous lire à propos de Marie Kita. Alors, les Folies Bergères attirent de plus en plus de monde, bien entendu. Seulement, au seuil de l'année 1902, Monsieur Marchand, qui maintenant est devenu très très malade, estime qu'il est grand temps pour lui de passer la main. Il est obligé de cesser ses activités. Il va vendre les Folies. Il traite à un prix complètement fou, 700 000 francs avec les frères Isola, Émile et Vincent. Isola, les fameux magiciens dont je vous parlais tout à l'heure, les illusionnistes qui s'étaient produits donc dès 1886 sur cette même scène. Alors le problème c'est que le bail, parce qu'au départ il y avait un bail quand même qui avait été concédé sur cette région des Folies Bergères, le bail, c'était l'hospice des 15-20 qui était propriétaire, le bail arrivait à expiration. Alors on a demandé carrément au président du conseil, monsieur Valdec-Rousseau, d'aller voir les responsables de l'hôpital des 15-20 pour qu'ils consentent un nouveau bail de 18 ans. Ça n'était pas du tout au même prix, hein. Le prix du bail a été multiplié par 10. Lorsque les Isola donc prennent leurs fonctions, l'entrée des coulisses et de l'administration se trouve rue de Trévise. Seulement, pour entrer dans le théâtre, il faut passer par un immeuble privé. Et donc, les propriétaires de l'immeuble, apprenant le prix du nouveau bail, se disent « Mais attendez, il y a de l'argent à se faire. » Ils vont demander un droit de passage extravagant. Et c'est la raison pour laquelle on va ouvrir une nouvelle entrée des artistes sur la rue Saunier, complètement de l'autre côté. C'est toujours l'entrée des artistes actuellement aux Folies Bergères.
L'histoire des légendaires Folies Bergères à Paris, c'est Franck Ferrand qui vous la raconte cet après-midi. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité, ou par exemple nous parler de vos souvenirs aux Folies Bergères. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'incroyable histoire de cette salle mythique à Paris, les Folies Bergères.
Alors donc, les illusionnistes, là, les frères Isola, viennent de racheter les Folies Bergères. Dans un premier temps, ils s'en tiennent au genre qu'avait lancé Marchand. Ils vont respecter tous les engagements, les contrats pluriannuels qui avaient été signés, du reste. Et c'est comme ça que les Parisiens vont pouvoir découvrir de nouvelles attractions étonnantes. Le géant Machenot, alors lui, il faisait 2,85 m, vous imaginez. La troupe Price, ce sont des équilibristes. Woodson Wilworth avec ses phoques jongleurs qui vont être tellement célèbres qu'on les verra bientôt sur les boîtes de biscuits, etc. Vous savez, on oublie aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui a pu se passer. Alors là, on ne sait même plus quoi dire. J'allais dire le cinéma, la télévision, mais maintenant Internet, etc., etc. Mais à l'époque, ce genre de spectacle était très célèbre en quelque sorte. Il suffisait qu'une personne dans une famille l'ait vu pour que toute la famille en parle, etc. Donc, on faisait beaucoup de déclinaisons, beaucoup de publicité autour de tout ça. Maurice de Thiers est la première femme à boucler la boucle en auto. C'est une acrobate automobile, si je puis dire. Rigaud et son orchestre Zigane, etc. On organise également des combats de lutte, avec notamment le célèbre lutteur Paul Ponce, qui à l'époque est une célébrité. Et puis, pour 300 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, c'est complètement extravagant. On engage celle qui à l'époque est une espèce de superstar, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, Anna Judic, et pourtant on dit qu'à l'époque elle n'était même plus capable de chanter, mais elle avait chanté il y a longtemps et elle était toujours aussi célèbre. Elle fait donc son grand retour aux Folies. Les nouveaux directeurs engagent également Juliette Simon-Girard, qui elle est une chanteuse lyrique, vous voyez qu'il y a un peu tous les genres, etc. Mais la grande idée des frères Isola, et ça c'est dès 1902, c'est d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça en quelque sorte, et de créer le modèle moderne de ce qu'on va appeler la véritable revue, avec comme fond de spectacle deux grands tableaux qui se succèdent avec le corps de ballet des Folies Bergères et avec ces danseuses plus ou moins nues, en tout cas très déshabillées, qui vont faire bien sûr la célébrité des lieux. En mars 1903, les Isola, qui viennent donc de lancer ce nouveau système, et qui est appelé à faire florès pendant 80 ans maintenant, vous imaginez, et néanmoins, à ce moment-là, ils vont acquérir la Gaîté Lyrique. Et donc, ils vont se débarrasser de Parisiana, de l'Olympia et des Folies Bergères à ce moment-là. Ils mettent en location, si vous voulez, ils restent propriétaires du bail, mais ils cèdent les Folies le 1er juillet 1905 à Paul Ruez, le créateur justement de Printania, porte-maillot, qui voulait s'installer un peu plus dans le centre de la capitale. Il était un peu trop à la périphérie d'une certaine manière. Alors on pense donc que c'est sous Ruez, sous sa direction, que la Fred Carnot Company s'est produite à Paris. Je vous en parle, c'est une des très nombreuses compagnies qui se soit produite sur la scène des Folies Bergères, mais en l'occurrence, il y avait quand même dans la troupe en question deux petits débutants qui allaient faire parler d'eux, puisque c'était personnellement Charlie Chaplin et Stan Laurel. Vous imaginez un peu, c'est assez extraordinaire. Bon, en attendant, Monsieur Ruez, lui, ne paie pas son loyer, ce qui commence à fatiguer les Isola, qui vont faire procédure sur procédure et qui obtiennent du tribunal de commerce la décision de mettre fin à ce contrat jamais honoré. C'est l'expulsion de Ruez, donc en juin 1907. Les Isola récupèrent les Folies Bergères qui ne restent pas longtemps fermées. On peut pas garder une grande salle comme celle-là fermée longtemps. Ils la rouvrent avec le mime Séverin dans une reprise de Chant d'habit, qui était une pantomime très célèbre de Catulle Mendès au siècle précédent. Et puis, comme il faut bien le dire, la pantomime n'amuse plus tellement les Parisiens à l'époque, on va décider d'ouvrir la scène à celui qui lui en revanche attire les foules. Comme disait Charles Trenet, c'était vraiment lui le roi du musical, c'était bien sûr Félix Mayol. Bonjour Jacques Pessis.
Bonjour Franck.
Il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, mais je préfère abréger un peu mon propos pour vous laisser la parole, parce que c'est vous qui connaissez ça et qui le vivez littéralement. Vous êtes l'historien de toutes ces grandes maisons. Alors, on rectifie, hein, le musical, on peut dire que le concept est largement né aux Folies Bergères, mais le mot, lui, est né à l'Olympia, en
oui,
vérité.
Oui, car Joseph Foller, qui a créé le Moulin Rouge, achète en 1893 un hangar à musique.
Eh oui.
Et comme il ne parle pas anglais, il dit comment on dit hangar musique en anglais, on dit musical. Et c'est comme ça que le mot est né en France et est reparti ensuite en Angleterre.
Alors la toute première revue, celle qui avait causé des attaques cardiaques chez Madame Allemand et qui s'appelait Place aux Jeunes, ça venait d'où cette expression? Alors,
il y avait à l'époque un fait divers où un monsieur s'était lancé un défi de jeûner pendant 30 jours.
Et comme l'auteur... On revient à notre histoire d'accent circonflexe.
Voilà,
hein.
Et comme l'auteur de la revue était un journaliste du Figaro, Georges Grison, il avait repéré ce fait et avait intitulé la revue ainsi.
Alors, on pourrait dire que les Folies Bergères, dans les années 1880-1890, c'est un peu l'émission de Patrick Sébastien, le grand cabaret du monde, hein, ce sont des grands numéros. D'ailleurs, les gens, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas assis aux Folies Bergères, il y a des tables, on se promène, on circule, on sort de temps en temps fumer une cigarette dans le... D'ailleurs, on fume aussi dans la salle, hein, je vous rassure, mais on fume partout à l'époque.
Et on fait un tabac sur scène.
Et on fait un tabac sur scène. Ça vient d'un autre verbe, mais enfin, on va pas entrer là-dedans. En tout cas, les Folies Bergères sont une sorte de grand cirque sans la piste, d'une certaine manière, dans un premier temps.
Mais oui, parce que bon, ces numéros, on les regarde du coin de l'œil, mais le fameux promenoir dont vous avez parlé tout à l'heure, les messieurs de province y viennent au désespoir de leurs femmes parce qu'il se passe toujours quelque chose
oh
en coulisses
oui.
Et c'est ça qui les intéresse.
Évidemment.
Les véritables spectacles vont avoir lieu beaucoup plus tard, à partir des années 20, où Paul Derval va reprendre en main la maison et la diriger pendant une longue période.
On peut dire qu'un petit peu avant la Première Guerre mondiale, déjà avec l'arrivée de Mistinguett, de Maurice Chevalier, et tout ça, ça commence. D'ailleurs, on y vient avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu Londres, j'ai vu Turin, l'Autriche, Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. Maudit, que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai. Moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette. Mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça.
C'est vrai, soirée Mistinguette sur Europe 1 et c'est un véritable spectacle que vous propose cet après-midi Franck Ferrand puisque nous découvrons l'histoire des Folies Bergères avant le vrai spectacle de ce soir à 20h avec vous sur scène Franck et vous recevez Jacques Pessis, journaliste, écrivain et historien des musicals.
1911, l'arrivée de la Miss, enfin le retour hein, plus exactement, elle arrive en tout cas aux Folies Bergères, elle me voilà, je me ramène, chante-t-elle.
Oui, et on lui propose comme partenaire un jeune artiste qu'elle a vaguement croisé un jour parce qu'il est fan d'elle. Elle lui dit « Vous appelez comment ?»« Maurice Chevalier ». Ben continuez, lui avait été répondu. Et puis là, lui est profondément amoureux d'elle. Il a 13 ans de moins qu'elle, mais c'est vraiment la femme de sa vie. Et il y a une scène de préparation dans un tapis. Ils se retrouvent tous les deux enfermés dans un tapis.
C'est-à-dire qu'ils doivent rouler sur scène dans le tapis,
dans le
en
tapis
fait.
Et hein, descendre.
Voilà.
Et dans le tapis, qu'est-ce qui se passe ? Premier échange de baisers très long. Et personne ne voit rien, sauf que le metteur en scène à la fin a dit « C'est un peu long cette scène. »
Ça a duré 5 secondes de trop. Ouais.
Et c'est vrai que c'est le départ d'une histoire d'amour totale entre Mistinguette et Chevalier, deux légendes, qui va durer 10 ans et qui va se terminer parce qu'ils sont tous les deux stars et que c'est trop de stars sur scène, ça marche plus.
Alors ça fonctionne comment une grande revue à l'époque reine, on va dire entre 1900, juste avant la Première Guerre mondiale quoi.
Alors il y a la meneuse de revue avec ses plumes et ses aigrettes, c'est très lourd.
Oui.
Et il y a aussi
il y a des costumes qui peuvent peser 40 kilos.
Mais vous savez que pour s'entraîner, elles ont un annuaire sur la tête pour descendre l'escalier parce que c'est tellement lourd qu'il faut s'entraîner.
Mal, oui,
il y a aussi des boys obligatoires et qui sont autour de la meneuse et il y a un orchestre qui fait parfois 30 musiciens parce qu'à l'époque il y a pas de
fosse sociale.
Dans une fosse. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Et il y a des sketchs au milieu liés à l'actualité. Et de temps en temps, il y a un numéro de musical.
Oui, et ce numéro de musical, il vaut mieux que ce soit un numéro de classe internationale. C'est ce qui fait la célébrité de la revue.
Mais
en fait,
à l'époque, ce n'est pas un problème. Au contraire, Paris étant la ville lumière,
mais
on est fier de venir à Paris.
Venir.
Tout le monde
ça.
Veut venir présenter son numéro. Et il n'hésite pas. Effectivement, on cherche dans le monde entier des numéros. Il y a des relais qui se passent. Il n'y a aucun problème.
Alors, Mistinguette, que vous connaissez si bien, Jacques Pessis, c'est pour cause, puisque vous avez rendu hommage à Mistinguette aux Folies Bergères, justement. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez venu nous en parler. Avec Maurice Chevalier, les voilà qui reviennent en 1912. On pense que, quand je parlais d'époque reine, c'est vrai que c'est un peu l'âge d'or hein, des Folies Bergères. C'est un boulevard, tout le monde se précipite pour venir voir ces revues. Or, arrive la Première Guerre mondiale. Est-ce que la guerre va changer grand-chose à la situation ?
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grandes vedettes pendant la guerre, mais il y aura toujours les Folies Bergères. Le lieu va rester ouvert pendant les quatre années de guerre.
Ce qu'on appelle un des lieux de l'arrière, en fait.
Exactement. Hein. Et les gens viennent parce que finalement, les périodes de guerre, que ce soit 1914 ou 1930, ont profité au lieu parce qu'on avait besoin de faire la fête et de rêver et on venait aux Folies Bergères.
Et là, il faut citer Raphaël Beretta et Léon Volterra. C'est la grande époque, là.
Léon Volterra, qui va ensuite acheter le Casino de Paris, est un monsieur qui a démarré à l'Olympia en vendant les programmes en disant « je le paye 100 sous », on lui donnait un peu plus et il a fait fortune et il a pu racheter le Casino de Paris et créer le premier grand escalier et des revues qui vont faire fortune et qui vont faire la fortune de Volterra qui ensuite va avoir différents lieux à Paris et devenir ensuite maire de Saint-Tropez où il va accueillir les plus grandes vedettes de son temps.
Alors celui dont il faut parler pour ce qui est des Folies Bergères, bien sûr, celui qui va imprimer définitivement sa marque à cette salle et aux spectacles qui sont présentés avec une régularité incroyable, puisqu'on change à une époque, dans les années 20, on change de revue tous les ans, c'est complètement incroyable, et même pour certaines années, deux fois par an. C'est Paul Pitron, qu'on appelle Derval, Paul Derval on va dire.
Voilà, effectivement, tous les ans on change la revue, mais d'abord, c'est plein tous les soirs, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio,
voilà,
on sort rêver de Paris ou de province.
Oui.
Et Paul Derval est un comédien qui est arrivé un peu par hasard, qui voulait au départ à 14 ans être comédien et venir dans les coulisses des Folies Bergères, s'était fait jeter. Et il se trouve que par hasard, il rencontre l'administrateur qui l'engage et petit à petit, il va devenir directeur artistique puis propriétaire du lieu. Et il va véritablement inventer les revues. Et il y en a une qui lui doit beaucoup, c'est Joséphine Becker.
Bien.
Car elle vient de triompher au Théâtre des Champs-Élysées en 1925 avec sa danse sauvage. Il l'engage, mais il l'engage comme danseuse. Car à l'époque, Joséphine Becker ne chante pas. Elle va chanter 5 ans plus tard.
On l'appelle la Perle Noire.
Et d'ailleurs, Charles Trenet disait à propos de Joséphine Becker à Mistinguette, c'est ta bête noire. et elle va danser et il va inventer pour elle la ceinture de banane qui est un symbole de l'Afrique et qui va faire la gloire de Joséphine Becker.
Évidemment. Et Joséphine Becker reviendra plusieurs fois tout au long de sa carrière aux Folies Bergères, même un peu tard. Voici ce qu'elle nous chante sur la scène des Folies.
«
qui revoit brusquement son enchantement, ça me fait vraiment quelque chose. Car sans Paris, la Seine et les quais et la Motte Piquée, je sens qu'il me manquait trop de choses. Pour dire chérie, dans d'autres pays, on s'écrit ma dire, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui, j'en suis toute chose.
Revoir Paris, Joséphine Baker, qu'elle chantait sur la scène des Folies Bergères, dont vous nous racontez l'histoire avec votre invité Jacques Pessis, Franck Ferrand.
Oui, avec une extraordinaire efflorescence du spectacle dans toutes les grandes salles parisiennes, pas seulement les Folies à l'époque. Hein, vous parliez du Casino de Paris, vous parliez bien entendu de l'Olympia, enfin c'était
le Moulin Rouge.
Moulin Rouge, bien sûr.
On sort tous les soirs à Paris. Vous savez que certains artistes peuvent se produire dans deux lieux en même temps, à condition qu'il y ait 3 km de distance entre les deux lieux, parce que comme il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est la distance qu'on imagine pour ne pas avoir des spectateurs concurrents.
Là, c'était en 1936, ce qu'on vient d'entendre, et Derval était allé chercher Joséphine à New York, en fait. Hein.
Oui, parce qu'elle avait tenté sa chance aux États-Unis, elle était revenue dans son pays, mais malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Donc, elle a été au bord de la ruine, elle est revenue en France, elle a rebondi, elle est repartie. C'est arrivé régulièrement avec Joséphine Baker.
Oui, bien entendu, elle était assez coutumière. Alors, on a cité Mistinguett, Joséphine Baker, si on doit faire la liste de toutes les stars, les célébrités, les plus grandes célébrités de l'époque qui sont venues aux Folies Bergères, on pourrait faire une émission entière. Hein. Il suffit de prendre les programmes des différentes années, surtout dans cet entre-deux-guerres où l'on crée des revues toujours plus extraordinaires.
Toujours plus extraordinaire, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que des stars débutantes vont grandir aux Folies Bergères. Alors, il y a eu quelques problèmes, notamment avec Charles Trenet, parce que pendant la guerre, il accepte de venir aux Folies Bergères.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, bien sûr.
Il refuse qu'il y ait des Allemands dans la salle. Paul Derval lui dit, il n'y aura pas d'Allemands dans la salle. Il arrive sur scène, il voit des uniformes vert de gris.
Il y en a partout.
Il y en avait partout. Donc, il va s'arranger pendant 3 jours pour arriver en retard et se faire virer par Paul Derval. Jean Sablon, qui est une star à l'époque aux États-Unis, vient en France et se produit aux Folies Bergères. Tout le monde, un jour ou l'autre, est passé par cette salle.
Oui, bien entendu. Alors, justement, en 1940, on s'est demandé ce qu'allait devenir la salle. Elle a clopiné, si je puis dire, pendant la Drôle de Guerre. Et puis, quand les Allemands sont arrivés, ils en ont pris possession, tout simplement.
Mais exactement. Et d'ailleurs, pour être clair, la salle était au bord de la faillite avant 1939.
Et oui.
Et c'est grâce aux Allemands que Paul Derval a pu se recréer un petit fonds de commerce, garnir son portefeuille. Et c'est pour ça que les Folies Bergères ont pu continuer.
Alors, il y a des noms qu'on a aujourd'hui complètement oubliés. Mais je pense à André Randall, par exemple, qui a été extraordinairement, c'était le grand roi du CAFCONS à l'époque, le grand comique. Bon, ben évidemment...
Personne ne connaît plus. Mais ce sont des disciples de tous les comiques troupiers de l'époque.
C'est ça.
Et débutants, mais personne ne connaît plus ces noms-là. On connaît à peine Mayol, on connaît à peine Fraxon, mais sinon les autres sont totalement oubliés. Il y en avait des dizaines.
Et à côté de ça, il y a des artistes qui étaient un peu secondaires au moment où ils arrivent aux Folies et qui aujourd'hui sont encore... je pense à Yvonne Printemps, par exemple, qui est restée très célèbre.
Yvonne Printemps a démarré comme habilleuse aux Folies Bergères quand elle avait 14 ans. Et petit à petit, elle est venue sur scène. Il y a Fernandel aussi. Fernandel arrive à Paris pour réussir dans la chanson et il va se retrouver aux Folies Bergères. Il va se retrouver avec un fond de décor de grand escalier. Il va faire un numéro autour de ça et ça va fonctionner au maximum et ça va lancer sa carrière ensuite de comédien.
Il faut dire que cette salle qui au départ est une salle dite lyrique et est complètement ouverte à la promenade, est une salle dotée d'ondes extraordinaires et le lien entre la scène et la salle est particulièrement fort.
Hein, vous l'avez ressenti, ça y est.
Oui, ça y est, là je suis amoureux, cette fois c'est vrai.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Quand on est tout môme et qu'on vient à Paris, que veut-on voir le premier soir? Avant l'opéra, les musées, les Tuileries, que veut-on voir rempli d'espoir? On veut choisir aussitôt sans manière, ou casino, ou Folie Bergère. On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, Folie Bergère. On hésite primo entre le casino, Folie Bergère. On y voit des femmes nues, on en est tout ému, Folie Bergère. On pointe un air blasé, mais on regarde de côté, Folie Bergère. Pendant l'entracte, on va se promener, seul dans la rue, car on est énervé. Pour la seconde partie, on est tout cramoisi, Folie Bergère. Et lorsque vient la fin, on s'en va, mine de rien, Folie Bergère.
Folie Bergère de Maurice Chevalier, à l'instant sur Europe 1, car c'est cette salle qui est à l'honneur jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Jacques Pessis, journaliste, écrivain, historien des musicals, qui a notamment écrit Les Folies Bergères avec Jacques Crépineau, paru chez Fixo.
Vous savez, Jacques Pessis, c'est le genre de personne, vous lui diffusez cet extrait là de la bande originale du film Folie Bergère, et il vous dit, ah mais il y a eu deux versions de ce film.
Oui, ce film a été tourné, une version américaine, car Maurice Chevalier, dans les années 30, était la star française aux États-Unis, et il y a eu la version pour la France plus modeste.
Alors, non seulement il était la star française, mais il incarnait Paris, justement. Il y a quelque chose de très parisien dans cette forme-là de spectacle, dans ces revues qui ensuite vont faire les beaux jours d'autres grands cabarets. Hein. Je pense au Lido, bien entendu, etc.
Mais c'est parisien. Quand on parle des revues de Broadway, on oublie que la première revue de Broadway, Ziegfeld, est venue en 1910 aux Folies Bergères et a entièrement plagié, et il l'a dit, la revue des Folies Bergères pour créer les premières revues de Broadway.
Voilà, c'est ça.
Et ça a recommencé dans les
années
30.
Donc on exporte dans le monde entier, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui.
Exactement,
finalement.
Ouais. Et c'est ça qui donne l'image de Paris. Quand Miss Tinguette va aux États-Unis, c'est une star. D'ailleurs, elle s'invente des fiancés pour avoir de la promotion. Elle a déjà compris ce qu'il fallait faire. Et quand Maurice Chevalier arrive pour tenter sa chance aux États-Unis, il devient le symbole de la France. On l'imite partout. Et on imite son accent français quand il parle anglais. Son canotier devient célèbre. Il engage un orchestre pour l'accompagner sur scène. Personne n'y croit, c'est l'orchestre de Duke Ellington débutant, et il fait des films qui vont lui permettre, à la fin de sa vie, de recevoir un Oscar d'honneur.
Alors il y a bien entendu toutes ces grandes meneuses de revue. En 1949, la reine des folies a 43 ans, et c'est bien sûr Joséphine Baker qui vient faire ses adieux à la revue.
Premiers adieux.
Premiers adieux, parce que alors après ça va perdurer comme ça pendant très longtemps. En 52, Yvonne Ménard, une self-made woman, dit Derval, entrée aux folies par la petite porte, engagée comme simple mannequin, bref, femme nue. Nita Raya, ex-partenaire et compagne de Chevalier, et qui prend elle la relève en 1955 dans une revue qui s'appelle Ah, quelle folie! Parce que chaque revue porte ce nom avec le mot folie. Hein.
Le mot folie, les 13 lettres, sauf une fois où il n'a pas mis les 13 lettres, ça a été le seul échec de sa carrière.
Incroyable, hein, quand même, il faut reconnaître.
Oui,
ça, c'est assez
étonnant.
Alors, ces meneuses de revue, elles étaient très connues en leur temps, on les a un petit peu oubliées aujourd'hui.
Bon, il y en a quelques-unes qui sont restées, qui ont fait d'autres carrières, comme Liliane Montevecchi, qui est devenue comédienne qui a triomphé dans Nine à Broadway, Lisette Malidor qui a fait une belle carrière aussi, mais beaucoup d'autres sont tombés dans l'anonymat parce que c'était pas un rôle facile. Il fallait mener la revue 7 jours sur 7 pratiquement. Mais en dehors de ça, on ne pouvait rien faire avant et après.
Vous savez que vous avez de la concurrence, en fait. Il faut que je vous dise ça, Jacques Pessis, puisqu'il y a Lily aux Folies Bergères, qui est chef de salle, qui connaît tout ça par cœur, qui est la mémoire vivante. Hein,
elle
vous
connaît bien le lieu, oui.
Et c'est notamment grâce à elle que j'ai tous les petits éléments là, qui me permettent d'avancer et de vous poser la bonne question. Qui est ce monsieur Michel Gyarmati?
Alors Michel Gyarmati, c'est le personnage des Folies Bergères. Il vient de Hongrie, il dessine comme personne, il demande un rendez-vous à Paul Derval, et Derval ne le reçoit pas. Désespéré, il commence à dessiner sur le trottoir, à la craie, les décors et les costumes qu'il imagine pour les Folies Bergères. Il pleut, il revient le lendemain, il recommence.
Parce que son dessin est complètement lessivé par la pluie, en fait.
Et ça crée un attroupement, et Derval descend, voit ça et l'engage. Et je crois que Gyarmati est resté jusqu'à la fin de sa vie, 55 ans aux Folies Bergères. Je me souviens de lui, dans les années 90, au fond de la salle, tous les soirs, quoi qu'il arrive, en train de regarder la revue pour voir si tout marchait bien, parce que il a commencé par les décors, et ensuite, quand Hélène Martini est devenue directrice des Folies Bergères, il est devenu le metteur en scène des revues.
Nous avions interviewé Hélène Martini Martini avec Lorena Martin il y a quelques années, justement pour parler déjà des Folies Bergères. C'est la dernière grande dame de la maison.
Elle a débuté d'abord après... Elle a eu un destin difficile.
66, hein ?
Oui, non, mais bien avant, quand elle était adolescente, elle arrive à Paris sans argent, elle devient danseuse nue aux Folies Bergères. Elle rencontre son époux, M. Martini, qui veut lui racheter la salle. Ça ne marche pas. Et ayant fait ce vœu de posséder un jour la salle, elle va finir par l'acheter en 66 et devenir la grande prêtresse des Folies Bergères jusqu'à ses dernières années.
Parce qu'évidemment, Paul Derval lui-même finit par passer la main, mais il est très âgé, il a 80 et quelques années à ce moment-là.
Il a tenu près de 50 ans. Sa femme, Tony Derval, qui est Yann de Marseille...
Oui, c'est ça, c'est Yolette Derval, on peut dire.
Oui, Tania Derval reprend un peu les lieux, et puis petit à petit, Hélène Martini va racheter les lieux et conserver ce lieu dans l'état où il était déjà dans les années 30. Et conserver ce lieu qui est immense, c'est un pari totalement surréaliste.
Avec des revues qui restent dans les années 1980 et même 90, encore un peu ce qu'étaient les grandes revues de l'entre-deux-guerres. On est dans les mêmes esprits. Alors, il n'y a plus tout à fait la même flamme, il faut quand même le dire.
Il n'y a surtout plus l'argent pour avoir des musiciens dans la fosse.
Les
musiques sont enregistrées, mais le numéro de la meneuse de revue en français et en anglais marche toujours, parce qu'effectivement, les touristes viennent à Paris et viennent aux Folies Bergères. C'est une tradition, même si la tradition a évolué et si les folies ont un peu changé.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ou deux figures qui auront plus marqué les Folies Bergères que d'autres, d'après vous ?
Je pense que Mistinguette, Chevalier et Joséphine Baker sont les trois figures marquantes des Folies Bergères. C'est incontestable. Et il y en a d'autres qu'on a totalement oubliées. Et c'est dommage parce que c'était des gens de talent, mais vous savez, tout va très vite dans le musical comme ailleurs.
Oui. Est-ce que le public a changé aussi dans ses attentes? On peut dire ça, sans doute, d'une certaine manière.
Oui. Alors, il faut savoir aussi qu'il fut un temps où on venait pour aux Folies Bergères parce que c'était la tradition parisienne. On venait de province, de l'étranger. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. On venait par groupe. Aujourd'hui, il y a Internet. En plus, les folies ont complètement changé. Le quartier est devenu plus difficile d'accès et on fait d'autres formes de spectacles.
Alors voilà, à partir de quand est-ce qu'il n'y a plus de revues du tout aux Folies Bergères ?
Dans les années 90, ça se termine.
Alors, ce qui est étonnant, et là je peux parler, je peux témoigner de ce que je viens de vivre, c'est que quand on prononce ce nom Folies Bergères, pour les gens, aujourd'hui encore, y compris pour des personnes qui sortent beaucoup, qui sont toujours dans toutes les salles de Paris, vous leur dites Folies Bergères, tout de suite, revue, femme nue, aigrette et plume. Cette image est restée alors que ça fait 20 et quelques années qu'il n'y a pas eu de revue aux Folies Bergères.
Cette image est restée alors qu'il y a le Moulin Rouge qui continue dans la tradition,
bien sûr.
Qu'il y a eu le Casino de Paris qui a fait
le Lido. Tout à l'heure.
Mais les Folies Bergères, c'est l'image typique. D'ailleurs, peut-être à cause des chansons des Folies Bergères,
peut-être.
À cause des films sur les Folies Bergères et tout ce qui a existé. Mais si vous avez le temps ce soir, avant votre spectacle ou après, allez faire un tour dans les sous-sols. Il y a vraiment, vous verrez, il y a une sorte de vie souterraine étonnante aux Folies Bergères qui est restée en état.
Il y a même, il faut dire, sous le grand vestibule d'entrée qui est le plus extraordinaire de Paris.
C'est le plus dire, extraordinaire,
hein,
oui.
Une salle absolument gigantesque qui est aussi grande que la salle elle-même. Et sous cette salle, il y a une petite salle de 200 places. Elle servait à quoi, cette salle un peu secrète
Elle n'a jamais vraiment servi. Elle voulait en faire au départ.
Elle a l'air bizarre, hein, quand même, entre nous, soit dit.
Oui, mais vous savez, il y a des moments où on ne sait pas très bien ce qui se passe.
Oui, voilà, c'est
mais
ça.
En tout cas, Hélène Martini voulait en faire à l'époque, je crois, une petite salle de spectacle, mais ça ne s'est pas fait.
Je vous propose d'entendre de nouveau celle qui a sans doute le plus enflammé le public des Folies Bergères. C'était Joséphine Baker et elle nous chante Minuit.
C'est à minuit que tout paraît surnaturel. C'est à minuit que la douceur descend du ciel. C'est à minuit que l'ombre est pleine du mystère et que celui qui sait me plaire se glissera dans la nuit claire. Il me prendra sans me parler, tout contre lui, pendant qu'au loin me sonnera minuit.
Comment expliquer la magie de Joséphine Baker? Quelle personnage, quel phénomène, quelle présence. Hein.
D'abord parce qu'elle avait une présence incroyable, d'abord parce qu'elle dansait comme personne et parce qu'elle était la première artiste noire à séduire les Parisiens.
Elle dansait, là on parle des années 20-30, mais après dans les années 60-70, elle danse nettement moins quand même. Elle est devenue une sorte de monument en fait.
Oui, mais c'est un monument, on se souvient de cette époque-là, elle chante et il suffit qu'elle apparaisse avec ses aigrettes pour qu'on se souvienne du mythe Joséphine. Elle a à l'époque de grandes difficultés financières et ça aide d'ailleurs beaucoup le public à la soutenir et à venir l'applaudir. Et ça, c'est quelquefois pathétique. Il y a un spectacle en 68 où elle arrive sur scène et elle chante, elle fait monter un spectateur sur scène pour danser avec elle. Et on sent le bonheur de cet homme, alors que c'est déjà une vieille femme, de danser avec Joséphine Baker.
Vous imaginez, ça fait des choses à raconter aux petits-enfants. Merci beaucoup Jacques Pessis. Un auditeur vient de compter le nombre de lettres. Franck Ferrand, ça fait 13 lettres, paraît-il. Ça tombe pas trop mal, finalement.
Beau succès à venir. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand vous donnera les origines des trois coups au théâtre. À tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et nous restons dans l'univers des grandes salles et du théâtre, puisqu'aujourd'hui c'est une question d'Isabelle pour vous, Franck, sur Europe 1.fr. Elle voudrait connaître les origines des trois coups au théâtre.
Eh oui, vous savez que ces trois coups sont frappés avec une sorte de gros bâton qu'on appelle le brigadier au début de la représentation. Entre parenthèses, de moins en moins. Les 10 dernières fois que je suis au théâtre, je n'ai pas entendu frapper les trois coups. Mais enfin, c'est comme ça. À la Renaissance, on disait que c'était par référence à la Trinité. Vous me permettrez d'être sceptique sur cette idée. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit au théâtre. Les trois coups, on dit aussi que c'est parce que à la cour, on frappait un coup pour le roi, un coup pour la reine et un coup pour le public. C'est possible. Vous savez qu'à la cour, de toute façon, le roi n'assistait que très très rarement à ce qu'on appelait la comédie. La salle à Versailles n'était pas du tout adaptée pour ça. Et le roi allait plutôt à l'opéra et à ce moment-là, il était dans une loge grillagée qui permettait d'assister au spectacle discrètement sans que le public sache s'il était là ou non. Bref, troisième explication qui fait remonter les trois coups, alors à une époque beaucoup plus récente, on nous dit qu'au 19e siècle, le régisseur faisait frapper une série de coups pour signifier qu'il fallait vider la scène, une sorte d'avertissement. Donc un coup sur la scène, un coup en haut des décors, un dernier coup depuis les coulisses, de sorte qu'il n'y ait que tout le monde soit bien à son poste. Bon, je ne sais pas, moi, je vous avoue que toutes ces explications ne me paraissent pas très convaincantes. Vous savez, en revanche, et ça c'est certain, qu'à la Comédie Française, on ne frappe pas trois coups, mais six, parce que la Comédie Française est née en 1680 de la réunion de deux troupes, celle de l'hôtel de Guénégo et celle de l'hôtel de Bourgogne. Voilà pourquoi on frappe là-bas les six coups. Et vous, cher Jacques Pessis, est-ce que vous frappez trois coups avant votre spectacle qui a lieu au Théâtre du Marais, s'il vous plaît, les jeudis, vendredis et samedis à 19h. Ça s'appelle Piaf, une vie en rose et noir.
Non, car c'est du musical, on ne frappe pas les trois coups.
Pas non plus au musical.
J'avais fait un spectacle il y a 10 ans, j'ai fait une nouvelle version avec une jeune chanteuse rockeuse, Caroline Rose, car Piaf est une rockeuse. Et surtout, je raconte ce qu'on n'a jamais dit sur Piaf, montrant qu'elle avait ce côté triste, mais ce côté joyeux, exceptionnel.
C'est ça, en fait, c'est un spectacle plein d'entrain, hein,
de nouveautés. Et Caroline Rose chante L'homme à la moto accompagné par une guitare électrique et c'est une grande première.
Et vous n'êtes pas sur scène là cette fois?
Si, je suis sur scène avec le spectacle avec Caroline accompagnée par Aurélien Noël, notre accordéoniste, et je raconte Piaf telle qu'elle était. On est trois sur scène et on vit Piaf tous les soirs.
C'est formidable.
Pour la jeune génération, venez nous voir.
Ben justement, je vais avoir un peu plus de temps libre, là je vais y aller soit un jeudi, soit un vendredi, donc soit un samedi soir à 19h. Merci beaucoup Jacques Pessis d'être venu nous accompagner et nous faire revivre les grands moments du musical en général et des Folies Bergères en particulier.